Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Et oui, pour une nouvelle semaine qui commence après les informés d'Adil Farkan, on retrouve Time Sport, votre quotidienne consacrée à l'actualité sportive. Les sujets de cette émission ce soir en ce lundi 5 septembre 2022, le Paris Saint-Germain prêt pour la vieille dame italienne, la Juventus de Turin en terre française. Le derby milanais, on en parlera, ça c'est promis. Incroyable derby de la Madonnina, justement du côté de San Siro. Et on n'oubliera pas, on va commencer par eux, par les Olympiens, ces Phocéens qui se régalent en Ligue 1. Tant décriés, critiqués, mais justement toujours aimés, cette ville qui est Marseille, qui respire football. N'oubliez pas, vous pouvez réagir en appelant le numéro du standard, c'est le 01 53 48 3000. Le débat du jour, on le rappelle, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le Paris Saint-Germain, un des rois d'Europe. Voilà, on vous donne la parole. Rien de plus simple, Giovanni à la réalisation ce soir se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM et on vous fait remporter un magnifique livre. Allez, on a un exemplaire ce soir, Sans nuance, de Mbappé aux éditions Solar. Voilà, on le rappelle, le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, vous composez ce numéro-là, vous réagissez avec toute l'équipe de Time Sport. On enchaîne, c'est parti, go go Time Sport.
Time Time Sport.
Et ce soir avec moi, pour m'accompagner jusqu'à 21h, on aura Achille, notre consultant, sans oublier Boula. Comment ça va, Boula ?
Alhamdoulilah, tout va bien.
Tout va bien, Boula. Trempé, mais il te va bien, ce magnifique polo que tu portes fièrement. Eh oui, ça te rappelait les années 80. Vraiment très sympa. Il va très très bien, Boula. Hugo Boss. Je suis sérieux. Ouais. Hugo, on n'a pas le droit de citer les marques, mais ça fait rien. Ouais. Boula, il est comme ça. On le connaît bien, le tonton. Et Abdel, ça le fait sourire, Abdel. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça me fait plaisir de voir Abdel. Comment ça va, Abdel ?
Ça va, Bilal. Bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là. C'est le retour de Time Sport.
Ouais.
De l'émission, c'est la troisième saison pour
c'est
moi.
C'est la rentrée pour
donc je suis très content
Abdel.
D'être là et impatient de débuter sur les sujets à traiter.
Ah ben justement, le premier sujet à traiter, on va parler de l'Olympique de Marseille. Allez, c'est parti pour l'Olympique de Marseille, le premier sujet.
Time Sport. Time Sport. Les pourparlers.
Il y en a pas mal, justement. Tottenham, Olympique de Marseille, Ligue des Champions, mercredi 7 septembre, 21h, du côté de la capitale anglaise. Et oui, fameux groupe D, première journée sur les 6. Marseille qui se déplacera, justement, du côté de Tottenham. On parle aussi Dieng, qui est dans le flou aussi. Après un mercato très animé, l'attaquant marseillais, Bamba Dieng, 22 ans, dispose toujours d'un avenir incertain. Voilà. Mais aussi, l'homme fort, eh ben, c'est lui. C'est même son Alexis. Si son tiède, l'OM roulera sur Tottenham, il y va confiant, un certain Tudor pour commencer cette campagne européenne. On les sent assez confiants, ces Marseillais. Boula, un mot concernant Marseille.
Alors, je trouve alors, que tout se passe bien. On critiquait beaucoup Tudor, mais finalement, il met une tactique en place. Il a mis pas mal de joueurs au travail où il n'y avait plus cette sensation de travail. Et là, tu le revois dans les résultats. Tu sens que c'est un mec rigoureux et tu sens que c'est le mec qu'il fallait. Puis le temps qu'ils ont eu pour mettre Tudor et le temps qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour faire un meilleur recrutement parce que c'était court. Comme ils avaient programmé un recrutement sur Sao Paulo.
Oui.
Et finalement, ils étaient obligés de. Bon, après, Sao Paulo a arrêté et finalement, Tudor est arrivé. Avec un autre schéma tactique, il fallait vraiment à un moment donné mettre les choses en place. Et je pense que les résultats qu'ils ont, c'est le travail physique de Tudor. Aujourd'hui, il a été remis un petit peu en question. Il a remis d'équerre 2, 3, 4 joueurs qui sont mis au travail et qui ont compris que les résultats, ils sont liés à la mentalité de Tudor. Et je pense que encore Longoria, il a encore fait très très fort au niveau du recrutement et au niveau de l'animation de Tudor.
Alors, Abdel,
pour compléter les propos de Boula, c'est vrai que déjà, notamment lors des matchs amicaux, c'est pas Igor Tudor qui les avait choisis. Par rapport à sa méthode, c'est de prendre des adversaires, de monter crescendo, et c'est pas ce qu'il a eu avec les adversaires qu'il a affronté. Donc c'est vrai que ça a mis beaucoup de doutes. Sampaoli avait quand même une très belle image malgré le fait que ce soit lui qui ait envie de partir, même s'il y a eu des petits désagréments entre lui et le club. Au final, Tudor est pas arrivé avec la meilleure des manières. Mais je pense que voilà, moi j'ai jamais été inquiet et ça se voit aujourd'hui sur le terrain.
Ouais, Abdel.
Alors pour moi, il n'y a pas vraiment encore de de patte en termes de jeu, mais il y a une patte en termes d'état d'esprit où il y a beaucoup de, où il y a beaucoup d'envie. Il y a des joueurs qui ont été mis aussi, comme il a dit Boula, les statuts ont été bousculés. On l'a vu avec Dimitri Payet qui a commencé sur le banc. On a vu Guendouzi qui a joué, mais qui a été quand même, qui était quand même affecté par le départ de Sampaoli. Il a fallu lui remettre un peu les pieds à l'endroit. Et voilà, après, il y a toujours un recrutement qui est assez, on va dire, intelligent, des joueurs d'expérience qui étaient un peu en difficulté dans leur club, des joueurs un petit peu aussi qui sont dans la plénitude de leurs moyens. On pense à Jonathan Clauss, on pense notamment à Nuno Tavares. Après, il y a pas mal de changements qui ont été effectués, mais faut pas être inquiet. Et tu parlais du levier de la Ligue des Champions. Certes, Tottenham a gagné 3 matchs sur 3 depuis le début de la saison en Première Ligue, mais moi je vois Marseille aller faire un coup là-bas. Certes, c'est encore un peu tôt pour en parler, on en parlera dans la semaine. Ouais. Mais il faut faire attention parce que Igor Tudor, il a cette mentalité. Peut-être qu'il n'a pas réussi dans les autres clubs, mais ou peut-être pas assez pour les gens.
Et peut-être
que
ça sera la bonne avec Marseille.
En tout cas, je pense qu'on peut lui faire confiance. Maintenant, il faut que ça aille dans la durée. Mais en tout cas, pour quelqu'un pour qui c'était mal parti, là, il est au même nombre de points que le PSG. Et donc, c'est intéressant.
Eh ben, à mon avis, c'est intéressant, Abdel. Toujours pertinent, tout comme Boula. Vraiment, ça intéresse les supporters de l'OM qui écoutent ce soir. Tam Sport et la radio Beurre FM, votre radio, la radio de la diversité, le 01 53 48 3000. On va essayer de prendre Houssine, mais on a notre consultant qui est un petit peu en retard. Il était, oui, surtout fraîchement de la conférence de presse du Paris Saint-Germain et aussi de la Juventus de Turin. C'est Achille. Bonsoir Achille, comment ça va?
Ça va bien Achille? C'est bien.
Ah oui, ça va très très bien Achille. On parle de Marseille.
Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant.
Alors, Achille, on a un petit problème avec le petit réseau, Achille. On va essayer de l'attendre pour l'avoir avec nous en studio. On va essayer de reprendre avec l'auditeur, allez, qui est Houssine, qui nous appelle lui tout droit de Marseille. Bonsoir Houssine.
Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Ben écoutez, je suis très content d'être parmi vous ce soir.
Aussi.
Et exactement. Vous m'entendez? Ça va? Tout va bien?
On t'entend très bien. Aussi.
On t'entend.
C'est le mot là, ça. Pour parler de Marseille, l'ambiance à Marseille est plutôt stable. Elle est plutôt heureuse. Vous savez que quand l'OM gagne, quand l'OM marque, le lundi matin, tout le monde est content. Quand l'OM perd, le lundi matin, tout le monde est malheureux. Mais bon, bref. Ça, c'est juste une petite parenthèse. En tout cas, c'est vrai que d'après ce que vous dites sur le plateau, effectivement, Tudor, les supporters de l'OM et les Marseillais, ainsi que tous les supporters dans la France entière, ont été sceptiques sur l'entraîneur Tudor.
Ouais.
Puisque son palmarès...
Même du mercato.
Pas fameux que ça. Même du mercato. Par contre, voilà, on a pu se rendre compte que son palmarès n'était pas aussi fameux que ça. C'est pour ça qu'on avait cette appréhension. Et finalement, effectivement, ce que dit Abdel, ça a l'air de prendre la mayonnaise. La mayonnaise est en train de prendre. Et du coup, il fait peut-être un début de championnat correct, je dirais même satisfaisant. Dans ce point de vue, il me semble, à travers les recrues, il faut se rendre compte qu'on a une colonne vertébrale qui tient la route. Paolo Lopez en gardien, Balerdi, Costini, Mbamba, Rongier, Verretou, Suarez. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui marche. Et en plus, on a des remplaçants qui tiennent la route. Donc ça va, je pense que dans l'ensemble, au niveau de la saison, sachant qu'on joue la Champions League, ça va être il va y avoir deux matchs par semaine. Donc ça va être un enchaînement très très intensif. Et je pense que voilà, ça a payé au niveau de l'entraînement physique que Tudor a fait. J'ai pu moi assister au niveau de la préparation à tous les matchs qui a eu lieu. Pendant les matchs de la préparation en été, et on a pu se rendre compte que c'était compliqué pour l'Olympique de Marseille, car ils avaient fait pas mal de défaites et un match nul ou une victoire. Donc voilà, c'était quelque chose que les supporters n'acceptaient pas. Et finalement, vaut mieux les avoir maintenant, c'est-à-dire en préparation, et gagner les matchs en championnat. C'est ce qui est en train de se faire. Et franchement, je tire mon chapeau à Tudor. Et puis voilà, on est deuxième au classement on est dauphin du Paris Saint-Germain. C'est quelque chose d'assez sympa. Je pense que on verra si ça tient le coup. Voilà, c'est ça qui me fait peur. C'est que est-ce que durant toute l'année ça va tenir ou pas?
Jusqu'à maintenant, il y a un truc depuis que Longoria est là. ça tient le coup, parce que quand tu vois le travail qui a été mis en place depuis que Longoria est arrivé, là tu sens qu'il y a une équipe qui s'est qualifiée en Ligue des Champions, tu sens qu'il y a un travail de fait. Dans les mouvements de transfert, ça s'est bien passé. Donc, tu sens que c'est pas du business comme ce qui se passe à Nice. Tu vois, c'est il y a un moment donné, ce qui est bien, c'est que c'est cohérent. Et comme Longoria est quelqu'un, c'est un ancien scout. Déjà, c'est un ancien scout. Il a l'âme du scout, l'âme d'aller chercher des joueurs de qualité dans le monde entier. Ça a toujours été son ADN. Et là, tu le ressens dans son travail, et surtout en tant que président, c'est bien, parce que tout son expérience, il reproduit à l'Olympique de Marseille. Et ce qui est bien, c'est que c'est rare de voir un directeur sportif qui est en coordination avec son entraîneur. Là, tu sens que s'il y a une cohésion entre l'entraîneur et le directeur sportif et la cellule de recrutement, tu sens que c'est les choix d'un entraîneur et c'est ce qui est bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a des résultats, et c'est pour ça que l'OGC Nice aujourd'hui est dans une situation qui est très très critique.
Et ouais, pour répondre
alors
à ce que
Abdel,
ce que disait Ossine, justement, je pense que à l'heure actuelle, dans le monde du foot, on laisse pas assez le temps aux entraîneurs. C'est pas parce que Igor Tudor est venu un peu comme ça sur le tas que au final c'était quelqu'un qui était pas compétent. Si on regarde les statistiques, c'est vrai que ça laissait pas présager quelque chose de bon. Mais quand on te propose un poste, forcément, tu regardes un peu les matchs qui ont eu lieu l'année dernière, tu essayes d'avoir une petite idée, est-ce que ça peut être en concordance avec ce que tu souhaites. Donc il n'est pas arrivé comme ça, les mains dans les poches et à la commanderie, et regarder comment ça allait se passer. Après, il a eu des matchs amicaux, certes, qui n'ont pas été bénéfiques au niveau des résultats, mais ça lui a permis de former une première ossature pour le début de saison. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il y a des joueurs comme Payet qui sont sur le banc. Et ce qui est bien, c'est que quand je dis que on laisse pas le temps au coach, c'est que maintenant on veut laisser les joueurs faire un petit peu tout, alors que dans d'autres clubs on dit oui, le coach il impose pas ses décisions. Là, il a pris ses décisions, il a mis des joueurs de côté qui avaient peut-être pas le bon état d'esprit, qui étaient pas en forme physiquement, et ça justement les supporters de l'OM, certains en tout cas, ont voulu tout de suite le prendre à la gorge, alors qu'au final il sait ce qu'il fait, c'est un entraîneur, c'est un métier, même si tout le monde ne le fait pas bien, il faut certaines compétences, et là il arrive à montrer que il n'y a pas de statut, parce que lui c'est un nouvel entraîneur et il a besoin d'avoir des certitudes. Donc c'est important d'avoir des résultats qui vont en concordance avec le discours qu'il a tenu auparavant, avant le début de la saison.
Ouais. Pour rajouter ce que j'ai aimé dans le Marseille-Nantes, quand il a mis Guendouzi derrière pour donner les ballons à... Il a senti qu'il y avait un problème. Et la semaine d'après, aujourd'hui, tu sens que quelqu'un comme Payet, et c'est là la qualité de Tudor, il a tiré au maximum de Payet par rapport à... Physiquement, il n'y était pas. Mais tu sens que c'est quand même un joueur Payet qui est très important dans l'intelligence de jeu. Il sent les déplacements de Alexis Sanchez. Et tu sens qu'il y a une cohésion. Mais tu sens que c'est vachement travaillé, ce football. Il est vachement travaillé. Il a une réflexion, Tudor, par rapport à la qualité qu'il a en joueur. Il sait mettre ses joueurs en évidence. Et encore, vous avez rien vu. Je pense que ça va monter très...
Moi, ce qui me fait plaisir du côté de l'Olympique de Marseille, ouais, c'est que toutes les recrues ainsi que l'entraîneur sont unis, ils sont un pour tous et tous pour un, c'est-à-dire que il faut le nécessaire pour vraiment mouiller le maillot, et ça l'Olympique de Marseille ça plaît, peu importe après le résultat. Je pense qu'à un moment donné, quand on est passionné de foot, on veut voir du beau spectacle, et quand les joueurs mouillent le maillot, obligatoirement tu as droit à du spectacle. Donc à partir de ce principe, je pense que tout le monde est d'accord, et on met un point d'honneur à ça, c'est qu'il y a une âme dans cet Olympique de Marseille. Il y a une âme, et cette âme-là, elle est nourrie par exactement, d'une part le directeur sportif, d'autre part l'entraîneur, et après voilà quoi, c'est le coaching qui fait que à un moment donné les joueurs se sentent bien, ils ont une stratégie de jeu, ils sont là pour l'autre, ils sont bienveillants. Et c'est ce qu'on doit nourrir, nous, au niveau du championnat français, quoi.
Et le joueur très précieux, que là où je reviens encore à Longoria.
Alors, c'est lequel?
C'est Issa Kabore qui vient de City, et je pense que c'est un joueur qui a été exceptionnel. Et au dernier moment, ça, c'est pour ça que ça a un petit peu bloqué, dans le sens où t'as Barça qui le voulait à tout prix. Et la force de Longoria, c'est qu'il a su, à un moment donné, trouver les mots nécessaires pour à garder ce joueur Issa Camoré, qui va être, je pense que ça va être une petite révélation dans la qualité du joueur, jeune, tout ça, et je pense que même le joueur est fier d'avoir signé à l'OM, parce que c'est quand même, ça reste une figure
de
niveau mondial, exceptionnel, Marseille.
On termine aussi
rapidement. Avec tout le respect que j'ai pour Paris.
Ouais. Merci aussi.
Sur le directeur sportif.
Rapide.
Si on peut dire ça, Longoria, par rapport à ses recrues, c'est des recrues où il joue la carte de la nouveauté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il prend des joueurs qui fait confiance, parce que voilà, c'est des débuts de carrière, et on leur donne la chance. Et Longoria a cette fibre-là. Il a cette fibre de trouver à un moment donné des bons joueurs jeunes et qui peuvent faire la différence à un moment donné dans le jeu.
Merci. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Un petit clin d'œil aussi à la Jules qui nous écoute ce soir, ainsi que Kelly, sans oublier Audrey et Anna, voilà, du côté de Biarritz. Et nous, on va essayer de vite revenir après cette courte pause pour accueillir Michaela Macali, correspondante d'Italie pour le foot, et aussi à Jean FIFA. Voilà, rapidement, et on reviendra, c'est promis, pour le Paris Saint-Germain, la Champions League.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour pour justement la seconde partie, 20h23, toujours en compagnie de l'équipe Time Sport. On est là que sur du football, c'est vrai, ce soir en tout cas. Avec Boula, avec Abdel, sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. On se lundi soir, lundi 5 septembre, à l'approche de ce fameux match, première journée qui opposera les Parisiens au Bianconeri, justement, la vieille dame italienne, la Juventus de Turin. Le 01 53 48 3000. Vous faites comme au Cine, vous nous appelez, on vous fait remporter un magnifique ouvrage aux éditions Solar, sans nuance, de Mbappé. Voilà, c'est les éditions Solar, magnifique bouquin, vraiment, rien que pour vous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. On le rappelle, le débat du jour, le PSG, un des rois d'Europe, justement, on vous pose la question, vous nous donnez la réponse et on vous donne la parole, chers auditeurs de Beurre FM. Et ce soir, allez, on l'accueille pour la seconde fois sur l'antenne de Beurre FM, Michaela Macali, correspondante d'Italie pour le foot et agent aussi FIFA. Bonsoir Michaela. Comment ça va? Buonasera.
Buonasera.
Ça va bien?
Oui, très bien. Moi, je vais parler comme toujours du Racing 92. Il a gagné, ça va très bien.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, un petit mot concernant ce Racing. Eh oui. Club de l'Ovalie, de rugby. C'est bien ça. Il y a eu quand même ce week-end, hein, Michaela, le derby de la Madonnina. C'est dans le championnat de la Serie A et on a vu les Rossoneri s'imposer face aux Interistes 3-2 par l'intermédiaire à deux fois un doublé de Raphaël Leao à la 28e, à la 60e, oui. L'international français Olivier Giroud à la 54e, Brozovic 21e et Edin Dzeko pour les Interistes. C'est pas mal, ça va fort quand même la Serie A.
Voilà, c'est très fort. Et vous savez, les deux équipes italiennes, on l'a dit la dernière fois, c'est en la recherche de l'étoile d'or. La deuxième sur le maillot, parce que les deux équipes italiennes, le Milan et l'Inter, ont gagné 19 championnats de Serie A. Ça veut dire que la prochaine, ou pour le Milan ou pour l'Inter, j'espère, parce que je suis de la Lombardie, ça sera la saison la juste pour gagner l'étoile. Moi, j'estime beaucoup l'amministrateur, vous savez, Marotta, Beppe Marotta, qui travaille très bien. Et où Marotta va, après la Juve, il va bien faire. Alors, j'espère, malheureusement pour l'Inter, mais bien, je suis très contente pour le Milan, le derby a été gagné par les Diavoli. On les appelle les Diavoli.
Abdel, il y a des réactions travers ce derby milanais qui fait toujours tant rêver.
Honnêtement, c'était un match où... où il y avait énormément d'intensité. Personnellement, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça dans un derby milanais. Après, je trouve que voilà, ça reste mérité sur l'ensemble du match que Milan s'impose. L'Inter a bien débuté, mais a trop peu fait, a trop été dangereux pour le Milan AC. Même si Mike Maignan sort encore un match stratosphérique. Après, voilà, il y a des individualités quand même. Même si les effectifs, pardon, ont pas trop changé, c'est vrai que les individualités ont fait la, on fait la différence, notamment j'ai dit Mike Maignan, mais aussi Raphaël Léao qui met encore un doublé. C'est vrai que on le connaissait à Lille. C'est vrai qu'il avait eu un petit passage à vide pendant une saison, mais qu'il est revenu sur le devant de la scène. Et surtout, on a vu que Chelsea a proposé 100 millions le dernier jour du mercato et que ça a été refusé par le Milan. Et quand on voit ce qu'il fait encore samedi, on se dit que c'est très impressionnant. Après, un petit mot aussi sur Ismaël Bennacer, qui est un joueur que moi j'apprécie énormément, et je trouve que il est assez sous-coté par rapport à tout ce qu'il apporte à une équipe et l'équilibre qu'il apporte, notamment au Milan AC. L'année dernière, en revenant de la CAN, c'est vrai que ça a été un peu difficile, notamment mentalement. Il n'avait pas les performances escomptées, mais là, quand on voit aujourd'hui ce qu'il fait, il récupère des ballons, il se projette, il est vraiment incroyable. Après, voilà, pour parler un petit peu de l'Inter,
ouais,
c'est vrai que c'est pas que j'ai été déçu, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas aussi l'apport, que l'absence de Lukaku a quand même manqué en termes de poids. C'est pas le même style de jeu du tout. Après, voilà, c'est vrai qu'ils ont pas connu de nombreux changements, de nombreuses évolutions, et je pense que ça reste sur une logique de l'année dernière que le Milan s'impose.
Bah. Ouais. Alors, Boula.
Bonsoir, Michela.
Ouais.
Buonasera. Bonsoir.
Tout va bien.
Voilà. Michela, l'italien. Moi, voyage beaucoup aussi, Boula.
Moi, Michela, moi, je trouve qu'il y a. Le Milan AC, c'est une grande équipe. Et à l'époque, je me rappelle, moi, j'ai connu Ariedo Braida.
Qui était
le number one de la cellule de recrutement à l'époque. Et moi, ce que je voudrais savoir, que toi qui connais bien Milan et que tu connais bien les Milanais, est-ce que tu penses que Paolo Maldini, qui a payé son âme à son père, parce que il était aussi dans la cellule de recrutement, est-ce que depuis que Paolo Maldini est arrivé au Milan, est-ce que tu sens que c'est l'homme de la situation sur les traces de Ariedo Breda et son papa?
À mon avis, Paolo Maldini, je l'estime beaucoup et il est en train de démontrer, vous avez vu avec la victoire du championnat de Serie A l'année dernière, il a bien fait. Et être le fils de Cesare Maldini, qui l'a gagné tout, être un grand joueur et puis démontrer d'être aussi un grand dirigeant, c'est incroyable. Parce que, à mon avis, vous pouvez imaginer aussi le stress psychologique d'être au même niveau du papa, avec cet esprit, a été, à mon avis, super bravo. Un grand, grand bisou, je peux dire, à Ariedo Braida, que vous savez que c'est encore actif, parce qu'il travaille sur la Cremonese.
Ah, il est à Cremonese?
Ah, d'accord. Oui, c'est à la Cremonese, c'est en Serie A cette année aussi. Alors, on verra aussi le Montacalcio de Berlusconi, qui va jouer contre le Milan, mais aussi Ariedo Braida, maintenant à la Cremonese, qui jouera contre le Super Milan. Mais c'est vrai, moi je suis très content pour Paolo Maldini parce que c'est moi qui pars, mais ce sont les résultats surtout qui partent pour lui.
Ouais, c'est très. Non, mais moi ce que j'aimais en Ariedo Breda, c'est que quoi qu'il arrive, s'il n'avait pas le joueur de talent pour remplacer le joueur d'expérience, s'il devait le garder jusqu'à 31, 32, 33, 34, 35 ans, il le remplaçait pas. Par contre, s'il avait le jeune qui arrivait derrière, qui avait l'ossature pour aller pour jouer au Milan, parce que c'était pas n'importe qui à l'époque du Milan. Moi j'ai connu le Milan quand Patrick Vieira est arrivé, j'ai connu quand il y avait Marcel Desailly, ouais. T'avais le droit à deux étrangers et Marcel, ouais, il était dans les deux époque, étrangers quoi. À l'époque, t'avais le droit à deux étrangers et c'était une équipe le Milan. Il y a eu les plus grands joueurs de l'histoire du monde dans ce club. Il y a un aura à Milan que là on voit que on sent le retour du Milan AC de l'époque.
Alors, le Milan AC de l'époque de Rose Gullit et aussi de Kaká, à mon avis, ce sont très loin. Ce sont des super équipes. Mais pas simplement pour un joueur qui peut être Giroud ou Leao, mais à l'époque, vous vous souvenez, le Milan de 2007, quand il a gagné la Champions League et la Supercoupe aussi, vous vous souvenez les joueurs, on a vu Seedorf, Pirlo, Inzaghi, Kaká, Dida, on a vu tout Nesta, on a vu tous ces joueurs ensemble et c'est à mon avis une chose incroyable. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Maintenant, le Milan, oui, c'est fort. Mais c'est très difficile à être comme le Milan qui a gagné en Europe et surtout avoir le même niveau. On peut dire que le grand Milan du président Berlusconi, c'est encore loin. Mais à mon avis, parce que les joueurs ne sont pas les mêmes joueurs qu'on a vus pour gagner tout ça. Ce sont des bons joueurs. Ils sont en train de faire, à mon avis, une grande histoire d'équipe. Ils ont montré dans le derby aussi, comme vous avez dit. Mais on est un petit peu loin. Hein, du... Parce que là-bas, quand on a gagné tout, tous les joueurs sont des stars. Moi, j'étais au début. À l'époque, j'ai travaillé avec Oscar Damiani, l'agent de sport de foot qui faisait aussi les transferts entre Italie et France. Je me souvenais, j'ai eu 25, 24 années très jeune, que quand je regardais le Milan, a été incroyable, même c'était aux premières expériences dans la Serie A, dans la Champions League.
En tout cas, Michaela, je suis content que tu aies parlé d'Oscar Damiani, parce que c'est le référent italien qui a beaucoup fait de mouvements d'Italie. De la France à l'Italie.
Ouais, comme
Mexès, c'est lui qui a fait pas mal de dossiers. Et à Paris Saint-Germain, il y a eu Marco Simonet, c'était lui qui l'avait ramené. Oscar était quelqu'un, Oscar est quelqu'un de très bien, qui travaille encore et qui travaille avec son fils et que j'aime beaucoup parce que Oscar, il fait partie quand même des agents italiens influents numéro un en France.
Oui, elle est d'accord. Justement, une réaction. Allez, on en a encore deux. Abdel, rapidement, avant de laisser filer Michaela.
Par rapport à ce que disait Boula et Michaela, ça parle un peu plus dans l'histoire et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mis à part le succès de l'AS Roma récent en Europe, qu'on les a pas vus peut-être briller. La dernière fois, c'était l'Inter en 2010, mais cette année, j'ai la forte impression que on verra une surprise et que un voire deux clubs italiens vont être assez importants sur la scène européenne, notamment en Ligue des Champions. C'est vrai que l'année dernière, on a vu le Milan sortir très tôt et dernier. On a vu l'Inter qui aurait pu se qualifier face à un Liverpool un petit peu fébrile. Mais cette année, j'ai l'impression que voilà, avec le championnat italien qui a retrouvé un peu de puissance avec des joueurs de qualité, je pense que cette année on verra une ou deux équipes briller sur la scène européenne en Ligue des Champions et c'est un avis que je défendrai jusqu'à ce qu'ils sortent de la compétition.
Alors Michaela, demain c'est la première journée de ce groupe H, excusez-moi, à 21h du côté du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain qui reçoit la vieille dame italienne Juventus. Et alors, un petit mot concernant cela, Michaela.
Alors, moi, je suis italienne et je vais dire toujours Forza Italia, Forza Juventus. Mais c'est vrai que j'ai vu le PSG, le premier match ici au Parc des Princes. Et c'est une grande équipe d'intensité. C'est très, très dangereux. Peut-être, à mon avis, qu'il va survantager le PSG, mais j'espère que la Juve va avoir l'envie de bien faire. Ça sera dur parce que le Parc des Princes, il y a des supporters incroyables. C'est très dur hein, pour la Juve, ça c'est vrai. Je ne peux pas dire qu'il va gagner le PSG parce que jeudi, je vais en Italie encore et je veux être tranquille à la Juve.
Ben ouais.
Mais voilà, c'est dur hein, parce que vous avez vu aussi Allegri en Serie A, les derniers matchs a été un petit peu attaqué par les médias, les supporters. Il y a un peu de problèmes à la Juve. À mon avis, la Juve, c'est pas la même Juventus qu'on a vu avec Marotta. Et voilà, j'espère qu'il va bien faire. Qu'ils vont utiliser l'orgueil surtout. Voilà, c'est la seule chose que la Juve peut essayer pour faire un bon match. Orgueil et envie de
trouver
les bêtises qui sont pour l'équipe.
Michaela, lui nous sort tout droit du Parc des Princes, hein. Il est à la conférence de presse, c'est Achille qui est avec nous. Un petit mot avec Michaela Macali, notre invité, Achille.
Si, buonasera.
Buonasera.
Alors, oui, un petit mot très rapide.
Ouais, avant la pause.
Avant la pause concernant la Juventus. On a vu, j'ai vu une institution, hein, ce que ça représente vraiment la Juventus. Il ne faut absolument pas sous-estimer cet adversaire. Leonardo, Bonucci était présent, chose assez surprenante. Parce que ça signifie qu'il devrait effectivement être titulaire. Et d'ailleurs, même pour aller un peu plus loin, monsieur Max Allegri a dit que Bonucci, Rabiot, Vlahovic et Mattia Perin seront titulaires. Donc, je me suis amusé à poser une petite question à Bonucci.
Alors.
Et sa réponse a été assez drôle parce qu'il a très peu de temps de jeu dans les jambes, il n'a pas beaucoup de rythme. Et ouais, il a pas beaucoup de rythme et il pense. C'est le message qui a été transmis, c'est que la Juve va la jouer à l'expérience qu'en fait et va faire ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir défendre. Voilà.
Oui, à mon avis c'est la même chose et surtout j'espère que dans la vestiaire Di Maria, qui connaît très bien le PSG, peut donner des conseils à l'équipe.
Malheureusement, il n'est pas venu à Paris.
Ouais. Il n'est pas là.
Il n'est pas venu à Paris.
Ouais.
Allegri a demandé à ce qu'il reste.
Il a resté dans le Piémont. Michaela Makkali, un grand merci d'avoir été avec nous pour la seconde fois sur l'antenne de Beurre FM. La prochaine fois, c'est promis. On l'aura avec nous en studio. Un grand merci. Et une très belle soirée et un bon match demain entre le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin, Michaela.
Oui, merci à vous encore. J'espère à bientôt. Et écoutez, c'est Di Maria, c'est pas là, mais ouais. J'espère qu'il est avec l'équipe. Elle peut parler, donner des conseils quand-même. Hein.
C'est vrai, bien sûr. Et on donnera des conseils.
Oui, j'espère.
Italie, c'est très mal.
Grazie mille. Allez, vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec le Paris Saint-Germain.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 41 minutes, toujours en compagnie d'Achille. Abdel est avec nous, sans oublier Boula, jusqu'à 21h avant de retrouver Vanessa, 21h, 23h. Vous restez bien à l'écoute de Beurre FM, la radio de la diversité, le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous. Voilà, rien de plus simple concernant le fameux match de demain qui opposera le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain face à la Juventus de Turin. Voilà, ça promet. C'est un sacré choc quand même. On verra si le PSG est prêt pour cette rencontre. Et justement, c'est le débat du jour. Le Paris Saint-Germain, un des rois d'Europe. Allez, c'est le dernier sujet et la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, Abdel, ça fait ton réagir. Alors, justement, on espère voir Vitinha, on a Achille qui nous reçoit tout droit de cette fameuse conférence. Et on apercevra peut-être demain, Abdel, toi, et aussi Boula dans les travées du Parc des Princes.
Ouais,
craquer.
On verra, mais pour
il faut suivre Boula pour ça, non, si tu veux tout savoir.
J'ai pas les moyens.
Ouais. Ah ouais, Boula. T'as pas les moyens, t'es toujours sur la pelouse.
Pour parler du match de demain, on en parlait juste avant la pause, c'est vrai que offensivement, au niveau de la Juventus, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec des absences telles que Di Maria, voire Chiesa qui est encore blessé. Mais depuis le début de la saison, la Juve a pris que 2 buts. Donc c'est vrai que ça va être un chantier difficile à manier pour Galtier et ses hommes. Et je pense que voilà, on sait que le juge de paix, c'est vraiment la Ligue des Champions. Le groupe dans lequel est tombé le PSG est assez homogène, donc ça va permettre de tenter pas mal de choses, de voir les améliorations et voir sur quelle hausse peut tomber Paris. Mais après voilà, je pense que pour répondre à la question, est-ce que c'est un grand d'Europe, ça que t'as dit?
Ouais, ouais, c'est ça, un des rois.
Un des rois.
Je
pense que sur les...
Le confrère de l'équipe attend un sacre de Manchester City et aussi du Paris Saint-Germain cette saison en Champions League.
Ouais, je pense que sur les performances récentes, le PSG fait quand même de très bons résultats. Après, c'est vrai qu'il y a eu pendant une dizaine d'années une situation un peu compliquée où Paris a été cantonné à jouer l'Europa League, enfin la Coupe UEFA à l'époque, mais Paris a toujours été très important en Europe. C'est pas parce qu'il y a eu des passages un petit peu compliqués que aujourd'hui, avec tous les moyens qu'ils ont en plus, qu'il faut mettre ça sur le devant de la scène. Mais en tout cas, voilà, je pense que Paris est préparé. En tout cas,
En plus de ça, les poules sont toujours bien réussies de la part du PSG. Et voilà, ça va être un bon test demain. Il faudra pas tomber dans la facilité et pas prendre en compte ce qu'a dit Massimiliano Allegri, comme l'a dit Christophe Galtier. Il a plus d'expérience que lui, ça, donc il le laisse parler. On parlera sur le terrain.
Ouais. Boula, Achille, le Paris Saint-Germain face à la Juventus de Turin.
La Juventus, ça reste quand même la Juventus. C'est un des plus grands clubs italiens avec le Milan. Aujourd'hui, ils sont dans une situation financière qui est pas. Ils ont pris des joueurs libres. Ils ont pas pu acheter. Rabiot, il voulait partir, il est resté. Et comme disait Achille tout à l'heure sur Bonucci, ils ont toujours gardé ces joueurs qui ont 35-38 ans parce que ils ont pas trouvé les relèves. Qu'ont la qualité des joueurs d'expérience que les Italiens ont toujours eu. Ils ont toujours joué avec des joueurs d'expérience. Et c'est une de leurs forces. Je pense qu'au niveau expérience, je pense qu'ils l'ont. Mais après, quand tu regardes un petit peu le début de saison de Paris, après, faut pas dire que c'est le championnat de France. Je pense qu'ils ont des joueurs en ce moment qui sont au top, comme Messi, comme Neymar, Kylian, n'en parlons pas, ça reste des trois gros joueurs exceptionnels. Après, t'as Ramos qui a un aura défensivement qui fait la différence dans le collectif de Paris. Et puis le schéma tactique que Galtier a mis, je pense que c'est un schéma très très solide de Paris pour éviter.
On l'espère.
Éviter les débâcles.
Oui. Alors Achille, le schéma, Paris toujours serein.
C'est assez intéressant parce que Boulin fait allusion au schéma tactique, l'inexpérience de Christophe Galtier et surtout, l'expérience d'un Max Allegri, et que ce soit du coach et de toute l'institution Juventus de Turin. Et ce que j'ai remarqué, quelque chose qui était assez frappant, Massimiliano Allegri a tenu un discours dans lequel il indique systématiquement la tenue du ballon. Il a dit ce match-là se jouera au niveau de la gestion du ballon. Ce qui veut dire que indirectement, il transmet, et d'ailleurs dans mes notes, j'ai notifié là-bas, Bonucci aussi est dans cette optique-là, c'est-à-dire que quand tu as des joueurs d'expérience qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais qui ont tellement d'expérience qu'ils peuvent compenser un petit peu ce manque de rythme,
ouais.
Et ben, comme il le dit si bien Bonucci, ils vont essayer de rejouer comme quand ils étaient enfants, et comme quand ils étaient enfants, en l'occurrence à la Juventus, ceux qui savent faire de mieux, c'est le catenaccio. Et donc par rapport à ça, il faut s'attendre à une équipe qui va chercher à boucher tous les espaces en défense et à tenter, dans la mesure du possible, de contrer le Paris Saint-Germain avec des joueurs d'une très grande qualité comme Vlahovic. Alors certes, c'est vrai que ce mercato-là, ils n'ont pas forcément été très 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 actifs. Cependant, faut pas l'oublier, les deux mercatos précédents, ils ont fait un mercato par anticipation l'année dernière et au mercato hivernal dernier. Et pour finir sur le Paris Saint-Germain, on voit une équipe qui est pleine de confiance, qui a de la certitude. La seule interrogation, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va avoir assez de variété dans son jeu pour réussir à faire sauter le verrou turinois comme ils ont pu faire avec le verrou lillois en l'espace de pas 30 secondes. Et si jamais ils y arrivent,
t'allais très vite.
On ne pourra pas avoir de soucis.
Ouais. Allez, Abdel, on a des personnes qui nous appellent là en plus.
Par rapport au PSG, je pense que là où il y a des lacunes, un petit peu des largesses, c'est notamment défensivement. On voit beaucoup qui sont pris dans le dos des milieux de terrain, et souvent les trois défenseurs se retrouvent un peu presque en un contre un. Donc des fois, ça fait un petit peu bizarre. Ça crée beaucoup d'espace. Je pense que aussi, le fait d'avoir des joueurs comme Neymar, Messi qui sont beaucoup axial, et ben ça fait que à la perte du ballon, bah t'es tout de suite aussi beaucoup plus exposé. Si tu récupères pas le ballon très haut, avec le pressing d'Hakimi et Mendes qui comme en étant piston, attaque bien l'espace. Maintenant, c'est vrai que Paris a quand même énormément de joueurs de qualité. Ce qui est intéressant et ce qui pourrait manquer si jamais Vitinha n'est pas titulaire, c'est vrai que Marco Verratti est vraiment dépositaire du jeu. Et la chose que Vitinha a apporté, c'est qu'il se déplace beaucoup. Donc, tu n'es pas obligé de faire des passes latérales ou de faire des passes en arrière et de perdre tous les mètres que tu as gagnés. Donc ça permettait justement à Verratti d'avoir une solution supplémentaire. Donc s'il n'est pas là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, sachant que la solution de reprise était Renato Sanchez, qui a du mal un peu à se mettre dans le moule. Mais on verra.
Alors Abdel, on a des auditeurs, des auditrices qui nous appellent en cette fin d'émission pour parler du Paris Saint-Germain. Et on a Giuliano qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonsoir Giuliano, on vous écoute.
Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir,
comment ça
bonsoir.
Va ouais. On parle du Paris Saint-Germain et de la Juventus.
Exactement, plutôt du Paris Saint-Germain.
Alors,
Paris Saint-Germain, ouais. Ah bah écoutez, moi franchement, la Juve, Allegri, tout ça, je pense qu'ils vont être très défensifs. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'impact en fait du milieu du Paris Saint-Germain, parce que ça manque un peu de physique, tout ça, et ce qui m'inquiète, en vérité, tout, voilà. Et voilà quoi. Et la défense aussi, parce que Ramos. En fait, bon, c'est plus le Ramos de ses 30 ans pour se retourner, tout ça, il a un peu de mal, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà.
Quand tu dis qu'il a du mal, tu regardes des matchs.
Alors Moula.
Il a eu un peu de mal quand même.
Au niveau du placement, au niveau de l'expérience, c'est que ça reste quand même un joueur exceptionnel.
Ouais,
mais il a plus le physique de ses 30 ans. Je pense qu'il manque un peu, il n'a pas une caravane, il a une petite remorque, quoi, tu vois, mais
ouais. Voilà, ouais, justement, Achille, pour répondre à Giuliano, peut-être, notre auditeur.
Là, jusqu'à preuve du contraire, il a enchaîné 7 rencontres consécutives, sans un peu pas physique. Je vois pas pourquoi on devrait encenser l'expérience du côté de la Juventus de Turin avec des joueurs type Bonucci, Chiellini qui est parti, mais Desciglio et autres. Et au Paris Saint-Germain, quand on les a,
mais il dit de faire attention quand même. Il n'a pas tort, l'auditeur Giuliano aussi. Il n'a pas tort, Moula, Achille.
On est quand même content de trouver le meilleur défenseur mondial.
Ça, c'est toi qui dis, Moula.
Des 10 dernières années.
Ouais. Alors, on a Aurélie qui nous appelle aussi depuis la région parisienne. On va garder aussi Giuliano, c'est la fin de cette émission. Aurélie, bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir, bonsoir Achille, bonsoir tout le monde. Mais en fait, je vous appelle pas de région parisienne, je vous appelle de la Lorraine.
Ah ouais, de la Lorraine. Bon, ouais, ça c'est le réalisateur.
N'importe quoi. Pauvre club de Nancy.
La Lorraine. Mais oui, le bonsoir la Lorraine. On vous écoute Aurélie.
Alors, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que les nouvelles recrues du PSG, Ruiz et Soler, peuvent avoir quelques minutes dans le match de demain?
Abdel, Achille pour lui répondre. Boula.
Question.
Oui, je pense que
Achille.
Carlos Soler fera peut-être une entrée, très probablement, à défaut de Fabien Ruiz, ou potentiellement, il y a un petit doute sur Fabien Ruiz, s'il a la capacité ou la faculté à pouvoir entrer en cours de match. Mais sinon, Carlos Soler, normalement, en fonction du déroulé du match, devrait.
Abdel, allez rapidement. Une petite réponse.
Selon le déroulé de la rencontre, mais bon. Je pense qu'il y a des joueurs aussi qui sont là depuis un moment et qui n'ont peut-être pas eu autant de temps de jeu que les nouvelles recrues qui sont arrivées. Mais faudra voir, ça peut être intéressant. Mais franchement, on ne peut jamais prédire à l'avance.
Bien sûr. Aurélie, mais c'est la fin de l'émission, Boula. On n'a plus le temps, Boula, qui a été avec moi, Boula.
Aurélie, pour
aussi,
te dire que ces deux joueurs ont été recrutés, tu peux dormir dans tes deux oreilles, c'est des joueurs qui vont apporter un plus.
C'est super ça pour Aurélie. Aurélie, vous quittez pas, justement, vous raccrochez pas. Giovanni, le réalisateur, va se faire un plaisir de prendre votre adresse. On va vous envoyer ce magnifique bouquin aux éditions Solar. Eh oui, les 100 nuances de Kylian Mbappé. Un grand merci aussi à Giuliano qui a été avec nous. Un grand merci à toi, Boula, Abdel, sans oublier Achille. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, 21h, c'est Vanessa qui arrive. Et nous, on se retrouve dès demain pour le grand match Paris Saint-Germain, Juventus de Turin. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.